Bonjour et bienvenue à cet épisode de Balado-diffusion qui vous est offert par le Centre d'aide aux étudiants de l'Université Laval. Le thème d'aujourd'hui sera « Qu'est-ce qu'un handicap? » Nous y ferons un bref tour historique de la notion de handicap, la définition actuellement reconnue du handicap, le modèle conceptuel sous-jacent à l'évolution de ce concept et les différents handicaps rencontrés à l'Université Laval. Au cours des dernières décennies, le vocabulaire utilisé au Québec pour désigner les personnes handicapées a bien évolué. Vers 1960, on désignait ces personnes comme étant des infirmes ou des invalides. Elles étaient marginalisées et dirigées vers des centres spécialisés à l'écart des systèmes réguliers. Par la suite, on a parlé d'handicapés, un nom qui englobe toute la personne, la réduisant à ce statut. Sa capacité de prendre des décisions pour et par elle-même en était réduite. Aujourd'hui, on désigne ces mêmes individus par l'expression « personne en situation de handicap ». Ici, le handicap est une caractéristique de la personne qui, mise en relation avec l'environnement, parfois produit des situations de handicap, mais pas toujours. Voyons maintenant la définition d'une personne en situation de handicap. Il s'agit de toute personne ayant une déficience entraînant des incapacités significatives et persistantes et qui est sujette à rencontrer des obstacles dans l'accomplissement d'activités courantes. Des mots-clés sont à considérer. Le premier, déficience, c'est-à-dire toute perte ou anomalie d'une structure anatomique. L'amputation d'un bras, l'anomalie d'un rein ou d'un œil en sont des exemples. Le deuxième mot-clé, incapacité, c'est-à-dire toute restriction ou affaiblissement de faculté découlant d'une déficience permettant de faire les activités considérées comme normales pour un être humain. Par exemple, un problème visuel qui ne peut être corrigé par le port de lunettes. C'est le cas des personnes ayant une basse vision. Ces personnes portent des lunettes tout en ayant une vision très restreinte. Le dernier mot-clé, obstacle. On parle d'obstacle lorsqu'une déficience entrave la vie quotidienne d'une personne, entre autres en lecture, en écriture ou pour se déplacer vers l'université et dans les pavillons. La situation de handicap dépend de l'organisation de la société. On donne un rôle actif à la personne et on cherche à réduire les obstacles tels que les préjugés, la discrimination, la dépendance et les services inadéquats ou inaccessibles. La société est handicapante ou facilitante. Pourquoi parlons-nous de situation de handicap? Cela vient du modèle de développement humain, processus de production de handicap. Ce modèle, développé par une équipe de chercheurs québécois, dirigée par Patrick Fougé-Rolas, met l'accent sur l'interaction entre les facteurs personnels et les facteurs environnementaux. Cette interaction a une répercussion sur l'accomplissement des habitudes de vie de la personne qui peut se retrouver soit en situation de participation sociale ou en situation de handicap. Maintenant, regardons la présentation des principales déficiences et des principaux troubles rencontrés chez les étudiants de niveau universitaire. Premièrement, la déficience auditive. Les personnes ayant une déficience auditive se divisent en deux catégories. La première, la personne sourde, c'est-à-dire surdité totale. Ces dernières personnes ont besoin généralement d'un interprète dans les cours afin d'accéder au contenu du cours. La deuxième catégorie est la personne malentendante, c'est-à-dire avec une surdité partielle. Habituellement, ces personnes ont des appareils. Dans un contexte universitaire, suivre un cours devient un défi, puisque dans les classes, il y a souvent beaucoup de bruit. Deuxièmement, la déficience visuelle. Par définition, une déficience visuelle ne peut pas être totalement corrigée par le port de verres correcteurs. Les déficiences visuelles comprennent différents degrés d'incapacité visuelle, variant d'une vision affaiblie jusqu'à une absence totale de la vue. Ces différences se classent en deux catégories. La personne aveugle, c'est-à-dire absence totale de la vue, et la personne malvoyante, c'est-à-dire avec vision affaiblie. Dans ces deux cas, les personnes ont besoin d'aide dans les déplacements et d'outils informatiques afin de lire et écrire. Troisièmement, la déficience motrice. Une déficience motrice se caractérise par une perte, une malformation ou une anomalie des systèmes squelettiques, musculaires ou neurologiques responsables de la motricité du corps. On retrouve dans cette catégorie les maladies dégénératives. Parmi les nombreuses maladies incluses dans ce genre de déficience, les plus connues sont la sclérose en plaques, l'arthrite, l'ataxie et la dystrophie. Quatrièmement, la déficience organique. La déficience organique est un trouble ou une anomalie des organes internes faisant partie des systèmes cardio-respiratoires, gastro-intestinaux ou endocriniens, comme par exemple la fibrose kystique, le diabète ou la maladie de Crohn. Cinquièmement, le trouble du langage et de la parole. Les personnes ayant une déficience du langage et de la parole sont celles dont la déficience découle de troubles d'ordre neurologique, tels que l'aphasie ou la dysphasie, entraînant des incapacités significatives et persistantes au niveau de la communication. Les difficultés touchent l'expression et la compréhension du langage. Sixièmement, les troubles d'apprentissage. Ils réfèrent principalement à la dyslexie, la dysorthographie ou la dyscalculie. Ils se manifestent par des difficultés en lecture, en écriture, en orthographe et en calcul. Ces étudiants ont entre autres du mal à intégrer les différentes façons d'écrire un même son. Septièmement, le trouble du spectre de l'autisme. Le trouble du spectre de l'autisme est un trouble dont la sévérité peut varier de léger à grave. En raison d'un développement neurologique particulier, ces personnes éprouvent habituellement de la difficulté à communiquer et à entrer en relation avec les autres. La compréhension du langage non-verbal et des sous-entendus sont un réel défi pour eux. Ce trouble peut occasionner des difficultés dans les travaux en équipe ou devant un changement imprévu. Huitièmement, le trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité. D'origine neurologique, les symptômes touchent principalement la gestion de l'attention, de la concentration, de l'impulsivité, de la mémoire et de l'hyperactivité. Finalement, les troubles de santé mentale. Ce groupe inclut des personnes ayant des problèmes persistants à long terme pour lesquels un traitement est déjà en place souvent depuis longtemps, comme la schizophrénie, le trouble bipolaire ou le trouble d'anxiété généralisée. Pour ces personnes, c'est souvent la médication et les effets secondaires qui entravent le bon fonctionnement universitaire et les obligent à cheminer à temps partiel. Les étudiants en situation de handicap sont de plus en plus nombreux à entreprendre des études universitaires. Pour l'année 2019-2020, on en comptait 2780 à l'Université Laval. Cette augmentation s'explique entre autres par les interventions de plus en plus précoces auprès des jeunes dans les écoles primaires et secondaires. J'espère que cette balado vous a permis de mieux comprendre qui sont les personnes en situation de handicap et surtout qui sont les étudiants en situation de handicap présents dans les différents programmes d'études. Pour aller plus loin sur le sujet, direction le site web du Centre d'aide aux étudiants sur le aide.ulaval.ca. Vous y retrouverez plusieurs sources d'informations concernant le sujet d'aujourd'hui, mais également concernant une multitude d'autres sujets. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée.